Max, question pour toi.
Réponse, peut-être, on espère.
Te sens-tu seul au travail?
Avant, dans le point de max, entre 10 et 11 heures, ça m'arrivait de me sentir seul. Mais maintenant que je suis toujours bien accompagné, non.
Pas si pire.
Non, ça va bien. Puis moi, je jase beaucoup avec le monde autour. Puis je pense qu'on est dans une. Tu sais, chez Leclerc Communication, on a une belle ambiance de travail où je pense que c'est dur de se sentir seul.
C'est très familial. C'est vrai qu'on est quand même chanceux. Il y a un sujet que je ne pensais pas aborder avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, c'est la solitude chez les jeunes au travail. Ce serait 45 % max des jeunes travailleurs qui se sentent seuls, isolés au travail, selon l'Association américaine de psychologie. C'est un chiffre qui date de 2024, mais quand même, c'est une réalité qui pourrait se développer, en fait, en ce moment. Puis la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit aider les jeunes à se faire des amis au travail, à socialiser au travail, ou c'est censé se faire un peu par soi-même? Annie Boilard, bon matin.
Bonjour Audrey, bonjour Maxime.
J'ai pas le choix de te dire qu'on dirait que ça me surprend, parce que personnellement, chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre ici dans Gang, j'ai comme l'impression qu'on se fait un devoir de l'intégrer, tu sais, qu'on se fait un devoir d'y faire une place, puis de que cette personne-là se sente chez elle assez rapidement, merci. C'est sûr qu'on est dans un domaine assez social aussi, mais à quel point les jeunes se sentent seuls pour vrai?
Oui, je suis bien contente pour vous deux que vous ne vous sentiez jamais seul au travail, mais c'est pas la majorité des gens. En fait, comme tu le disais, 45 % des jeunes travailleurs vivent cet isolement. Puis, il faut bien comprendre que ça les attriste. Des fois, des gens disent « Ah, mais tu n'as pas besoin d'avoir des amis au boulot. » Certes, là, si ça leur convient, mais les jeunes, dans les sondages, ils disent que ils sont peinés par cette situation-là. Eux, ils souhaiteraient avoir des relations plus significatives au travail. Puis ça, là, je vous dirais, c'est surprenant, vous disiez, vous, c'est moins votre réalité, puis je comprends, vous êtes dans un monde plus médiatique, plus relations humaines, mais à travers le monde, ça revient dans tous les sondages. Moi, j'ai lu des études sur ça en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, ça revient que les jeunes se sentent seuls. Quand on se demande pourquoi,
oui,
là, il y a un peu moins d'unanimité, c'est ça, hein? Pourquoi ils vivent cette solitude? Différents auteurs, différentes thèses, mais je vous lance quelques pistes. Il y a des chercheurs qui pointent vers la COVID. Il y a des chercheurs qui disent que ça pourrait être lié à une mécompréhension des relations que les autres entretiennent au travail. Une espèce d'enjolivement des relations professionnelles des collègues, tant en quantité qu'en qualité. Donc, une vision Walt Disney des relations interpersonnelles des autres. Il y a des auteurs comme Jonathan Haidt, que moi j'apprécie particulièrement, qui lui pointe vers le fait que cette génération a eu accès aux réseaux sociaux très tôt dans leur vie, ce qui a fait qu'ils ont développé des super habiletés pour créer des réseaux numériques virtuels, mais moins d'habiletés pour développer des relations interpersonnelles, et c'est ce qui expliquerait cette réalité.
Mais ça fait du sens en même temps, là.
Oui, c'est vrai que ça a du sens quand on regarde ça comme ça. Puis, tu sais, pour nous, en ressources humaines, là, une des raisons pour laquelle ça nous interpelle, c'est que les relations interpersonnelles, on sait que c'est la nourriture pour ce qu'on appelle le support par les pairs. Puis le support par les pairs, c'est important parce que c'est un facteur de protection contre les risques psychosociaux. Là, je suis un peu technique, mais en simple, là, c'est important. Il faut s'intéresser à cette question-là.
Puis à la base, un point intéressant, je trouve, c'est qu'il y a aussi deux visions complètement différentes des collègues. Il y en a pour qui un collègue, ça va toujours être un collègue, puis ça ne sera jamais un ami. Alors que pour d'autres, ben un collègue peut super bien devenir un ami, même si je vais encore plus loin. T'sais, moi, quand je suis arrivé à Québec, il y a maintenant à peu près 5 ans, là, ben j'avais personne à Québec. Fait que mes collègues, par la force des choses, ben c'est sûr que ça allait devenir mes amis, sinon on ne m'en serait pas fait ben des amis. Puis veux pas, j'étais tout le temps à job. En plus, c'était dans la période de la COVID, fait que je pouvais pas sortir. Ben naturellement, c'est clair que mes collègues sont devenus mes meilleurs amis à Québec, là.
Ben oui. Puis c'est intéressant ce que tu amènes comme nuance, Maxime, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des amis au travail, il y a des gens qui veulent jamais être amis avec leurs collègues, pour eux, ils veulent garder une vie professionnelle. Mais quand on parle de l'isolement des jeunes, c'est pas le fait d'avoir des amis, c'est pas ça qu'ils cherchent, là, nécessairement, comme ton exemple à toi, Maxime. C'est vraiment juste le fait d'être capable de nouer des relations significatives. C'est le fait d'arriver le matin, d'être capable de parler avec quelqu'un que je connais moins, d'être capable d'être vulnérable, de parler de moi, mais pas trop, parce qu'on est dans un contexte professionnel, de tisser une relation de confiance, de créer une relation significative qui va faire que, parce qu'on va se le dire, ami ou pas ami, là, peu importe l'étiquette qu'on lui apporte, c'est souvent ces relations qui font qu'on a envie de rentrer le lundi matin,
oui,
là.
Oui.
T'sais, comment ça a été à sa date, on veut savoir. C'est souvent ça qui s'est passé. Alors, c'est pour ça vient créer une confiance, ça donne du sens, ça nourrit la loyauté envers l'employeur. C'est très important, cette notion-là d'appartenance.
On travaille. En même temps, je me suis toujours demandé la limite était où. Parce que longtemps, moi, je me suis fait dire ça, là, tu sais, faut que tu gardes une barrière entre ton professionnel et ton personnel. Et pourtant, malgré moi, et même, je vais appeler ça problème que Max, mais moi, quand je suis arrivée il y a un peu plus que 7 ans maintenant, j'en avais pas non plus de connaissances à Québec. Fait que rapidement, les liens que j'ai créés au travail sont devenus ces amis-là, ces connaissances-là. Puis je trouve que c'est positif.
Avec les patrons, des fois.
Ben
est-ce
oui,
qu'ils
absolument.
Disent ça, des fois, on dit de garder à distance, puis.
Mais c'est ça, et où la limite? Parce qu'en même temps, ça devient difficile. Tu sais, moi, si demain matin, je sais pas, j'ai des problèmes tout d'un coup avec mon employeur ou je veux plus travailler à Boulevard ou peu importe ce qui se passe, ben il y a pas juste le deuil de mon emploi, il y a le deuil de mon cercle social.
Et mais ça, l'employeur aime ça, entendre ça. Hein? Vous savez, ça nourrit la fidélisation,
C'est sûr.
l'engagement. C'est exactement ça que l'employeur veut créer. Mais je trouve intéressant parce que dans vos deux histoires, il y a quelque chose en commun, la notion de temps. Tout ça s'est passé il y a quelques années. Est-ce que vous me permettez d'amener la conversation vers l'impact des technologies et de l'intelligence artificielle sur la
Absolument.
réalité des jeunes 2026?
Oui, ben oui.
Ça fait des nuances. Là, je vais vous amener sur un drôle de terrain. Je vais vous parler de ce qu'on appelle en anglais des companion AI. La traduction, ça serait des robots en intelligence artificielle ou des compagnons en intelligence artificielle. Moi, je l'entends toujours en anglais. Fait qu'avec votre permission, je vais garder cette appellation. Je vais prendre le temps de le définir, puis après ça, je vais vous donner des statistiques, puis vous allez comprendre pourquoi c'est si important cette conversation. Je pense, humblement. Donc, d'abord, un companion AI, ce n'est pas votre chat GPT, ce n'est pas votre copilot, ce n'est pas votre Google, ce n'est pas non plus votre Alexia.
Fait que c'est pas un
OK?
outil qu'on utilise à job.
Non, c'est très relationnel cette affaire-là. Les applications les plus populaires, par exemple, c'est Caractère IA, pour se donner un exemple. Alors, c'est vraiment des applications qui sont faites pour développer une relation émotive entre un IA puis l'ordinateur, puis un humain. Ce que je veux dire, c'est que la job de votre companion AI, c'est de vous garder en ligne le plus longtemps possible. C'est ça qu'il va essayer de faire. Fait qu'en opposition, si vous demandez une question à votre chat GPT, sa job, c'est de vous donner une réponse. Là, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vous donne un exemple. Disons que je reviens du boulot ce soir, puis que je rentre chez moi, je salue avec ma voix mon companion AI. Je pourrais le faire avec un chat, mais ça revient à la même chose. Et que je lui dis, ouf, dure journée aujourd'hui. Mon robot conversationnel pourrait me dire quelque chose du type, ah oui, Annie, dure journée aujourd'hui. Dis-moi, c'est-tu parce que ton patron t'en demande trop ou tes collègues ne te supportent pas suffisamment? Vous voyez, mon companion AI va me garder dans la conversation, là. Ça va être très émotif. Je reviens.
Ça
On se
amène
parlait
un
de la
biais aussi, je trouve, là. T'sais, si
Ben
ça
oui.
t'amène un certain biais de tes collègues ne te supportent pas assez, c'est sûr que là, tu es dans solitude, en tabarnouche, là. Tu parles avec un robot, puis il te suggère que l'humain n'est pas assez présent, là.
Ben oui, puis c'est sûr, le robot conversationnel va toujours vouloir te conserver dans la conversation. Tu vas toujours avoir raison. Je vous le dis tout de suite, vous êtes toujours beau, fin, grand, gentil. Vous avez toujours raison avec votre robot conversationnel. Mais je reviens. Tantôt, vous parliez de l'importance du travail pour nouer des relations quand vous êtes arrivé à Québec à l'époque. Aujourd'hui, en 2026, je vous partage 4 statistiques qui viennent de l'Association américaine des psychologues, puis les auteurs de ce que je vais vous dire, c'est Golden and Woods. Regardez bien, présentement aux États-Unis, 72% des adolescents ont déjà essayé un robot conversationnel, un companion AI.
C'est énorme, hein?
Puis ça va juste monter.
Ouais. 52% des adolescents américains l'utilisent en continu, ça veut dire au moins une fois par semaine.
OK.
Toujours selon les mêmes auteurs, environ un homme sur trois de 30 ans et moins a déjà eu une relation amoureuse avec un companion AI et une femme sur quatre du même groupe
C'est
d'âge.
beaucoup.
Oui.
Hey, ça me rend mal à l'aise, moi, on dirait ça. Parce que je me considère pas vieille pantoute, là. Je veux dire, je m'en vais vers la trentaine, je suis pas si déconnectée des réseaux sociaux et compagnie, puis jamais dans 100 ans, j'ai pensé me lier d'amitié ou d'amour avec un compagnon d'intelligence artificielle.
Moi, amour, je commence à y penser, mais ça, c'est une
C'est une
histoire
autre
pour un autre
histoire.
moment.
Mais c'est ça, et c'est pour ça que ça nous interpelle, parce qu'il va de soi, parce qu'on le voit tous, là, que si c'est ainsi que les gens développent leurs relations, bien, développer des habiletés pour interagir avec des humains en chair et en os, ça va encore plus s'effriter. Là, je vais vous dire par transparence intellectuelle, il y a de la traduction libre dans ce que je vous ai dit tantôt. Comme par exemple dans la littérature anglophone, ça dit des relations romantiques. Moi, j'ai traduit par des relations amoureuses. Mais je pense qu'on comprend
On est dans le
l'esprit
même, mais oui, absolument. Mais
dans ce
là.
qu'on est en train de se dire. Fait que c'est pour ça que c'est préoccupant. Fait que nos jeunes qui se sentent seuls aujourd'hui risquent de se sentir encore plus seuls plus tard. Et comme vous disiez, c'est important le sentiment là, de faire partie de la gang. On veut que les gens soient bien au travail. Fait que ça nous interpelle beaucoup.
Mais comment on peut soutenir, je veux dire, les jeunes travailleurs là-dedans qui se sentent seuls? Parce que c'est dur à comprendre pour, mettons, des patrons d'une autre génération, là. Je veux dire, Annie, j'ai 29 ans, puis moi, dans ma tête, tu me dis ça, puis je suis comme, voyons, mais lâche-le ton sel, puis parle à du monde, là. C'est de même que tu vas créer des liens, tu sais.
Oui, mais toi, tu viens du monde des communications, c'est peut-être plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour aider nos jeunes? Tantôt, vous avez posé la question un peu cocasse d'entrée de jeu. T'sais, on va-tu leur donner un petit cours sur comment se faire des amis au boulot? Puis évidemment que la réponse, c'est non. T'sais, ça serait infantilisant, condescendant. C'est pas là que ça va aller. Moi, je pense que pour soutenir nos jeunes travailleurs, ça va passer par donner l'exemple. C'est par mimétisme qu'ils vont l'apprendre. En regardant des professionnels, des gens comme vous, là, tu sais, Audrey, tu dis, ben voyons, tu sais, ça se fait tout seul, se faire des amis au boulot. Des gens qui comprennent comment on fait cette stratégie, des fois, ils réalisent même pas, là, que savoir faire ça, c'est une compétence. C'est une compétence qui a un prix pour les entreprises, qui est enviée par d'autres générations. Puis juste rendre les comportements un peu plus évidents. Tu sais, des fois, c'est d'être un petit peu plus manifeste sur certaines stratégies. Puis aussi d'en prendre conscience. Nous, dans le développement des compétences en ressources humaines, on a un terme technique qui dit des experts inconscients. Ça, c'est des gens qui savent même plus comment ils font pour faire des choses. Pour nos auditeurs, on pourrait dire conduire une voiture. Tous nos auditeurs qui conduisent leur voiture, là, on se rend plus compte que
C'est
comment on fait pour.
instinctif.
C'est instinctif, c'est ça. Même chose pour nouer des relations significatives au travail. Parce que je reviens au point de Maxime tantôt, on ne dit pas se faire des amis, on est juste dans cette mécanique de créer une relation significative, de parler de soi, d'être disponible pour l'autre. C'est ça qu'on est en train de parler. Donc moi, je pense qu'à ceux qui détiennent cette compétence, donc les Audrey et les Maximes de ce monde, aider les autres, parfois en prenant conscience de ce que vous faites, des fois en expliquant la stratégie qu'il y a derrière pour que les gens puissent apprendre de cette compétence. Puis moi, je pense que c'est vraiment ici qu'on va être capable de défaire cette réalité, cette problématique qu'on a au niveau de l'isolement de nos jeunes travailleurs.
Annie, avant de te laisser parler, je trouve ça super intéressant ce sujet-là. Avant de te laisser partir plus tôt, il y a
Je trouvais que tu abâillonnais pas mal, là. Je
Avant de te laisser
te
parler.
trouvais impoli, là.
Avant de te laisser partir, il y a un sujet que tu m'as envoyé il y a peut-être une semaine, deux semaines, que je trouvais quand même intéressant. Puis j'ai une question qui me trotte en tête depuis. On parle de la perception des salariés envers leurs employeurs. C'est des résultats d'un sondage léger qui porte sur ce sujet-là. Puis il y a des chiffres quand même préoccupants. Un travailleur sur quatre qui veut quitter son emploi dans la prochaine année. 40% des travailleurs qui ne recommandent pas leur employeur à un ami. Puis la question que je me pose, c'est pourquoi tu gardes une job que tu ne recommandes pas?
Parce que tu as plein d'amis au travail.
Bon, bien.
Alors, c'est une excellente question, Audrey. Il y a plusieurs raisons. Puis là, nous, on est à Québec, là. Donc, c'est sûr que le taux de chômage est plus bas, puis on a les plus grands points d'interrogation quand on regarde ça. Faut garder en tête qu'au Québec, c'est pas partout la même chose. Il y a des endroits où c'est difficile de trouver un boulot. Il y a aussi plein de réalités. Il y a de la compétition sur le monde du travail. C'est pas toujours facile de changer. Puis vous aussi considérez, tu dis, Audrey, d'un côté, les gens sont un peu drôles de rester dans un travail qui leur déplaît. Mais d'un autre côté, prenons le temps de mettre la loupe sur la question. T'sais. Par exemple, les gens qui voudraient quitter leur emploi. C'est 27% là, les gens qui disent oui, je considère changer d'emploi dans la prochaine année. T'sais, le verbe considérer, quand on le met la loupe dessus, c'est assez facile à atteindre ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des gens qui sont nécessairement insatisfaits de leur travail. T'sais, moi, si vous me posez la question, je considère faire bien des affaires cet été-là. Vais-je tout faire ce que je prévois faire? C'est une toute autre question. Mais considérer,
C'est je pourrais-tu y penser?
c'est ça, c'est souhaiter, songer, y penser. Alors, on peut penser à bien des choses. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a de la frustration, il y a de la souffrance dans le monde du travail. beaucoup des employés qui regardent les gestionnaires et qui parfois ne comprennent pas ce qui se passe. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se laisser prendre au jeu des statistiques. Il y a aussi des gens qui sont bien dans leur travail, puis ça peut expliquer pourquoi on ne voit pas tant de déplacements que ça entre les ressources.
Mais qu'est-ce qu'on reproche au patron? C'est pourquoi les employés sont si insatisfaits? Là? Bon, évidemment, c'est un chiffre qui est peut-être gonflé, là.
Bon, il y a plein de choses. Dans les grands classiques, là, des enjeux de communication. Ce que les gens disent, c'est on ne sait pas ce qui s'en vient, on apprend les affaires à la dernière minute, et on ne comprend pas. Alors, des enjeux de communication. Là, tantôt, je disais on est à Québec, mais Maxime parlait de Montréal tantôt. Je pense qu'on a tous déjà pris un métro dans notre vie, là.
Oui.
Pour moi, ce que j'imagine dans ma tête, c'est comme les employés sont dans un métro, puis vous savez, dans un métro, on apprend la station. Quand on est rendu, ils vont nous dire telle prochaine station. Bien, c'est comme s'ils travaillent, puis là, ils ont l'information qui rentre au fur et à mesure qu'ils arrivent dans la station. Puis ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que les employés ont besoin d'autonomie pour être bien dans leur travail. Tantôt, Audrey, tu parlais d'affiliation. C'est notre mot technique pour dire se sentir dans la gang. Ils ont besoin d'autonomie. C'est plusieurs critères comme ceux-là, mais ça fait partie des critères clés, ça. Mais pour avoir de l'autonomie, il faut que tu aies de la prévisibilité. Il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Tu ne peux pas faire ça au fur et à mesure puis apprendre la station, apprendre les informations quand tu es rendu. Alors ça, des enjeux de com, ça revient souvent. Après ça, il y a tous des enjeux au niveau de la déconnexion des patrons. Hein, des gens qui disent « les boss, ils gèrent comme s'ils étaient dans une tour d'ivoire, comprennent pas ce qu'on fait. » Puis ça, c'est frustrant parce que les employés se disent « ben ouais, mais je suis pas important, moi. Pourquoi le boss, il descend pas de sa tour d'ivoire, de sa tour de contrôle pour venir voir ce que je fais? » Puis comme ça, ben, les changements, les décisions vont avoir plus, vont être plus logiques par rapport à notre responsabilité. Fait que c'est vrai que c'est frustrant. D'un autre côté, des fois, les patrons ont à provoquer des changements qui sont difficiles à opérer sur le terrain. C'est pas parce qu'ils comprennent pas ou qu'elles comprennent pas, c'est juste parce que ce changement-là passe par un tournant difficile. Donc, des fois, c'est une mécompréhension entre les parties.
Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, toujours un plaisir. Où est-ce qu'on peut te rejoindre ou te suivre?
Ah, ben réseau. Réseau Annie RH sur le web, on me retrouve facilement. Merci, Maxime, de poser la question.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Salut Annie.
Audrey, as-tu vu la grosse nouvelle qui retient toute l'attention dans la dernière heure?
Tu vas me parler de Gallagher.
Brendan Gallagher qui a pas mal confirmé qu'on ne le reverrait pas à Montréal et a craqué, a dû quitter le scrum devant les journalistes pendant quelques secondes. J'ai un petit extrait. Tantôt, j'avais les larmes aux yeux, là. Brendan Gallagher, je veux dire, c'est ma jeunesse, c'est la eggline avec Galchenyuk puis Lars Eller, c'est un guerrier à Montréal, c'est un modèle.
C'est un idole.
Fait que je vous laisse entendre comment ça a sonné.
There's been ups and downs, but I don't have a single regret, so well, it's pretty clear. I'll be kind of moving on here, but you know, incredibly.
Oh mon Dieu.
Sorry. Jeez. No, I'm just I'm very fortunate. No, I just I had a thought about my mom. I was just thinking about how the teammates supported me through that and oh God. Sorry. I still get emotional talking about her, but you know, that's just something that always will stick with me. Just give me a second here, guys.
Donc, Brendan Gallagher qui dit, ça semble assez clair que c'est la fin pour moi ici, qu'on va move on vers quelque chose d'autre. Puis là, il craque. Puis là, il y a une journaliste qui demande, qu'est-ce qui t'a... Ouais, exact. Puis il dit, ben, j'ai pensé à ma mère, sa mère qui est décédée du cancer. C'était l'an passé, il y a 2 ans de mémoire. Là. Puis Brendan Gallagher qui dit, j'ai pensé à ma mère puis à comment les gars, comment mes coéquipiers m'ont supporté dans cette épreuve-là.
Ça doit tisser des solides liens. Là.
Ben Brendan Gallagher, là, il est à Montréal depuis... Il était repêché à Montréal en 2010, a commencé à jouer dans la Ligue nationale avec les Canadiens en 2012. Ça fait 14 ans que Brendan Gallagher fait partie du Canadien.
C'est sa famille, là.
Puis il a le fait que ça fasse longtemps, mais il a le fait aussi que ça doit être tough de plus suivre. Mm. Tu sais, de passer d'être un morceau important, d'être le cœur de cette équipe-là à hey Brendan, tu joueras pas en série. Il a joué 3 games dans le run de série qu'on vient de faire. ça doit être tough. Là.
T'es plus la saveur du moment, t'es plus... Non, non, ça doit être excessivement
difficile. Puis surtout pour un Brendan Gallagher, qui est un guerrier, qui lui, ça doit lui faire mal de ne pas pouvoir aider, parce que lui, ben, il y a deux... Soit il sent justement qu'il n'est plus capable, mais il y a une partie de lui qui doit se dire... Colin, me semble j'apporterais quelque chose, tu sais, contre les Hurricanes.
Mais c'est parce que ton cœur y est, mais à un moment donné, c'est le corps aussi, là.
Exact. Puis Dieu sait que Brendan Gallagher, son corps a été magané, là. Il a tout donné pour le Canadien de Montréal. Là, on semble comprendre que Brendan Gallagher veut poursuivre sa carrière professionnelle. Où est-ce que ça va se faire? Dans quelle modalité? Est-ce que le Canadien va racheter son contrat? Est-ce qu'on va l'échanger en donnant un choix au repêchage, en retour qu'une équipe prenne son contrat? Ce sera à suivre. Dans tous les cas, là, ça fait 3-4 fois que j'entends l'extrait, puis à toutes les fois, le mot tombe pas un petit peu, là. Brendan Gallagher qui a vraisemblablement disputé son dernier match à Montréal. Audrey Pinchot, on t'écoute dès 14h dans le retour.
Absolument.
Au retour, Nathan Meilleur pour sa chronique du jour et les nouvelles avec Mathias Turcotte.
Le point Max. Le point